vendredi 10 mai. Ici Denis Couture, voici les nouvelles. Bon après-midi, une attaque terrestre d'Israël à Rafah conduirait à une catastrophe humanitaire colossale, affirme le secrétaire général de l'ONU. Antonio Guterres ajoute qu'une telle attaque mettrait un terme aux efforts pour soutenir les populations alors que la famine menace. Le professeur de l'UQAM et directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal, François Audet, souligne qu'il n'y a plus aucun approvisionnement depuis le 3 mai.
La famine, c'est pas quelque chose qui se voit visuellement en quelques heures. Quelques jours. Les grandes famines, ça prend quand même plusieurs semaines avant que, évidemment, on voit des enfants émaciés, avant qu'il y ait une éventuelle mortalité, sachant qu'il y a quand même de l'eau et qu'il y a toujours possibilité de. Et c'est comme malheureusement, puis là je le dis en tout respect, mais les gens mangent des arbustes.
Environ 110 000 Gazaouis ont fui Rafah, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Chez nous, dans ce même dossier, une coalition d'organismes du Québec demande au gouvernement canadien d'agir. Ils estiment qu'Ottawa devrait adopter des sanctions sévères contre l'État hébreu. Karl Marchand.
Après 7 mois de guerre, près de 70 % des zones résidentielles de Gaza ont été détruites et 90 % de la population a été forcée de se déplacer. La coalition québécoise Urgence Palestine exhorte le gouvernement Trudeau à sévir fermement contre Israël. Sa porte-parole, Diane Lamoureux.
Le Canada doit prendre immédiatement des sanctions contre Israël, de la même façon qu'il a pris des sanctions contre la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine.
Le Canada est également signataire de la Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide, rappelle le député néo-démocrate Alexandre.
Alors, le gouvernement de M. Trudeau doit arrêter tout transfert et vente d'armes ou technologies à ce gouvernement-là qui est en train de faire des bombardements indiscriminés sur la population de Gaza.
En journée vendredi, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a bel et bien annoncé des sanctions, mais plutôt à l'endroit de 4 individus basés en Iran qui auraient aidé pour les attaques menées par le Hamas le 7 octobre. Ici, Karl Marchand, Cogeco Nouvelles, Montréal.
Environ 250 participants de l'Union des municipalités du Québec étaient réunis aujourd'hui à Drummondville pour entendre la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, au rendez-vous national sur l'avenir du transport collectif. La question du financement a retenu l'attention, tout comme la création d'une nouvelle agence afin de pouvoir accélérer de nouveaux projets de transport en commun. Le maire de Québec, Bruno Marchand.
Développer le Québec, développer son territoire, c'est permettre aux gens de se déplacer. On connaît ce qui marche. Les maires et les mairesses du Québec connaissent ce qui marche et il y a des initiatives qui fonctionnent dont on pourrait évidemment amplifier leur mise en œuvre si on était capable d'avoir d'un meilleur financement. Mais comme l'ont dit mes collègues, ça passe aussi par une vision. Et arrêtez de penser à la petite semaine, mais plutôt penser au développement complet du Québec pour les 15, 20, 30 prochaines années.
Le député libéral André Fortin réclame des changements majeurs à la financière agricole qui ne remplit pas son mandat. Selon lui, l'organisme offre aux agriculteurs des services en matière de protection du revenu, d'assurance et de financement agricole. Ce matin, le député Fortin a parlé de compensation inadéquate aux agriculteurs qui ont perdu toute leur récolte l'an dernier, mais ne recevant que de 15 à 20 de leur compensation dans certains cas. Le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne.
Les gens qui sont en difficulté, qui ont besoin de soutien, puis que présentement ne sont pas accompagnés à leur satisfaction, c'est de lever la main, c'est de contacter les directions régionales, contacter les bureaux de la financière, ultimement contacter le cabinet du ministre de l'Agriculture, mais on est engagé pour lui donner du soutien.
Et puis, une forte tempête solaire balayera la Terre ce soir. Des pannes de réseau Internet et des systèmes de géolocalisation sont à craindre, préviennent des experts. Le phénomène pourrait entraîner l'apparition d'aurores boréales là où il est habituellement impossible d'en observer. Un avis de veille de tempête géomagnétique a été émis par l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique. Cette tempête solaire pourrait être la plus...
Préférez-vous donner ou recevoir? Faites votre choix parmi une vaste sélection de produits érotiques, de lingerie et d'huile de massage chez Sensation Plus. Livraison rapide et discrète. SensationPlus.com. Partagez le plaisir.
Parce que nous tenons à nos clients. Alignement PMM t'invite à prendre rendez-vous pour préparer ton véhicule pour l'été. Que ce soit pour un changement d'huile, un alignement ou tout simplement pour une réparation. Alignement PMM est là pour toi. Des vieux pneus d'été fondus? Pas de problème, on en vend. On vend aussi des pièces de qualité. Parlant de qualité, celle de notre service n'est plus à faire. Prends rendez-vous dès maintenant. Alignement PMM. 418-722-6727. 418-722-6727.
Hey, salut, Denise. Je rentrerai pas travailler à la cantine. Je viens de gagner au Lotomax.
OK. Et puis demain?
Prochain tirage. 55 millions plus 4 max millions.
Ne manquez pas la toute nouvelle chronique de Sébastien Desjardins de H. Grégoire Rimouski. Démystifions la vente de véhicules usagés et tout ce qui l'entoure. Il a de bons conseils pour vous. Soyez au rendez-vous tous les vendredis à 9h15. Une présentation de H. Grégoire Rimouski.
FM 93.
Jusqu'à 15h, vous écoutez Sans Réserve.
Sans Réserve.
L'émission d'affaires publiques. Voici Luc Ferrandez.
C'est la troisième heure de l'émission. On la terminera avec Valérie Roberts qui nous donnera ses recommandations habituelles pour bénéficier de la culture montréalaise. J'ai aussi parlé avec Francisco Randez du changement. Le changement qui peut nous atteindre très profondément. On parle du changement notamment dans le cadre de notre travail, mais ça peut être autre chose aussi. On parlera à Luc Dupont de la venue ou du no-show de notre ami Lionel Messi. C'est quelque chose quand même de payer des milliers de dollars pour un billet puis de prendre le risque de ne pas voir la grande vedette. On commence avec Meeker Guerrier. Bonjour.
Je pensais que tu parlais de moi quand tu parlais de la grande vedette, non?
Oui, pour toi, on paye aussi des milliers de dollars.
Oui, des milliers, oui. Des millions, non. L'affaire, c'est que Lionel Messi, lui, est payé quelques millions de dollars. Mais un petit mot là-dessus, parce que ce sera demain au Stade Saputo. Je sais que tu t'en parles dans un instant, mais juste te dire que j'y serai, donc je vais pouvoir t'en parler lundi.
T'as réussi à trouver une petite fissure.
Non. On appelle ça les avantages de travailler dans les médias.
Ah, t'as reçu ton accréditation.
Oui, on me l'a confirmé aujourd'hui que j'allais être justement assis sous le petit collant qui dit 98.5. Fait que je suis aussi bien à profiter.
Bravo.
Ben oui, parce qu'il fallait absolument que je voie ça. J'ai essayé d'aller le voir lorsque j'étais au Qatar pour la Coupe du Monde. Mais oublie ça, c'était la folie. Tous ceux qui avaient des billets ne voulait même pas les vendre. Tu sais, là, plutôt pour demain, beaucoup de gens ont acheté des billets de saison, entre autres, au CF Montréal, en se disant, on va vendre le match du 11 mai, puis ça va couvrir, en fait, l'essentiel de la saison. On va pouvoir aller voir tous les matchs du CF. Mais la Coupe du Monde, c'est pas du tout ça. On dit, au contraire, je ne veux pas vendre mes billets parce que c'est peut-être la seule occasion que j'ai de voir le meilleur joueur de l'univers en ce moment et peut-être même le meilleur joueur de l'histoire. Ça reste à voir si c'est vraiment le meilleur joueur parce que les choses changent avec le temps. Mais disons que ça va être un moment assez
extraordinaire. On ne connaît pas Mbappé avec le match qu'ils ont livré en demi-finale en France qui a la moindre chance en ce moment là durant cette semaine de dépasser Messi, hein?
Écoute, avec ce qui s'est passé en Ligue des Champions, Paris qui a encore échoué à remporter cette Ligue des Champions-là, c'est pas qualifié. C'était déjà qualifié il y a quelques années, d'ailleurs, pour une finale contre le Bayern Munich, avait perdu. Mais là, on s'est même pas qualifié. On a perdu en demi-finale.
Contre une toute petite équipe, Dortmund.
Ouais, petite équipe, c'est un grand mot, là. Si tu compares au CF Montréal, là, c'est énorme.
Oui, d'accord.
Mais c'est une équipe Dortmund qui est pas reconnue comme étant, disons, parmi les plus grandes du monde. Mais il reste que c'est une très bonne équipe. C'est une équipe un peu comme le CF puissance 10 000, c'est-à-dire on forme des joueurs, on les vend souvent dans d'autres grands clubs.
Ah bon?
Mais c'est une excellente équipe en Ligue allemande. Donc, ils n'ont pas perdu contre des pieds de céleri, mais ils n'ont pas perdu non plus contre le Real Madrid ou contre le Barça.
Non, c'est ça. Ça serait attendu de la part. C'est une équipe en reconstruction. On connaît ça ici à Montréal.
Oui.
Le CF entre confiance et consensus.
Ben justement. Parlons du CF, parce que demain, ils vont jouer contre Lionel Messi. J'ai l'impression que ça a été un petit peu occulté cette semaine par ce qui s'est passé avec Olivier Renard. Et aujourd'hui, Gabriel Gervais, qui est le président de cette équipe-là, qui va maintenant occuper le poste aussi de président sportif, de VP sportif, mais qui va être le directeur technique de cette équipe-là, ben il a enfin répondu aux questions des médias. Disons que... Comment dire? Je suis agacé. Voilà. Je vais te le dire, Luc, je suis un peu agacé par le CF. J'en parlais avec notre collègue Jérémy Filosa il y a quelques instants en privé, puis je disais, tu sais, je suis pas inquiet pour les gens comme lui et moi qui suivent le CF, lui plus que moi, évidemment, les partisans de la première heure, les ultras, mais je suis inquiet pour le partisan moyen. Les gens comme toi, les gens comme des commentateurs sportifs qui suivent surtout le hockey, mais qui s'intéressent à ce qui se fait à Montréal aussi, qui suivent le football, le baseball, le foot. Parce que lorsque tu regardes ça, tu te dis de l'extérieur, mais il n'y a pas de stabilité dans cette équipe-là. Il y a toujours des changements, il y a toujours quelque chose, et ça se fait toujours à des drôles de moments. C'est pas comme si Olivier Renard faisait pas le travail. Ça se passe bien, mais on dirait que c'est plus des conflits de personnalité que des... disons, des échecs professionnels. Tu sais, si le CF s'en allait nulle part, aucune victoire, l'équipe va tout croche. Non, au contraire, on a répondu au mandat confié par le propriétaire, c'est-à-dire, on va former des joueurs, on va les vendre, tout en poursuivant des championnats comme le championnat canadien, par exemple, ou le championnat de la saison. Mais, malgré tout, Olivier Renard a senti le besoin de quitter. Et moi, ce qui m'a marqué, entre autres choses, c'est deux réponses, en fait. Deux réponses de Gabriel Gervais. On les a mis ensemble. Jérémy m'a fait un petit montage. Ensuite, je veux juste t'expliquer, moi, comment je le vois de l'extérieur. Parce que comme on n'a pas vraiment répondu aux questions, on sait pas c'est quoi le conflit, on sait pas pourquoi, on sait pas qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui se passe avec Mathieu Chouanet, on est obligé d'interpréter. Ben, ces deux réponses-là, en une, moi, je les interprète d'une manière particulière. On va écouter à l'instant.
Je dirais que les derniers temps, on avait des divergences stratégiques quant à l'application de la philosophie sportive. Donc, on était rendu à un point où est-ce que pour le bien du club, pour le bien d'Olivier, la meilleure décision était de se séparer de façon professionnelle. Les décisions stratégiques du club sont partagées. En ayant des personnes à la table et tout mon comité exécutif et fait partie de mon conseil d'administration quand on fait des rencontres récurrentes, c'est d'avoir des discussions saines autour de ça.
Donc, des discussions en groupe sur des décisions. Moi, ce que ça me dit, c'est que Olivier Renard n'avait pas les coudées franches. Et c'est probablement ça qui fait qu'il a quitté. Parce que il a parlé, entre autres, Gabriel Gervais, de consensus, de divergence d'opinion, on n'allait pas nécessairement dans la même direction et tout. Pour moi, lorsque tu confies un rôle à quelqu'un, un rôle décisionnel dans une entreprise, il faut qu'il ait les coudées franches. Il faut que, lorsqu'il prend une décision, il en soit imputable. C'est-à-dire, ça fonctionne, parfait, continue, on re-signe un contrat, comme on l'a fait il y a 2 ans à peine. Si ça fonctionne pas, ben merci, au revoir, ça aurait été agréable. Mais là, c'est pas ça qui est arrivé. Il fait le travail, mais on n'est pas d'accord. Et moi, lorsque j'entends un dirigeant parler de consensus versus divergence d'opinion et qu'il y a un membre important de l'organisation qui quitte, ce que ça me dit, dans le fond, c'est que le modèle de gestion, c'est je veux votre opinion, mais au final, c'est moi qui décide.
Oui.
C'est pas ça un consensus.
Mais
un consensus, c'est que tout le monde prend une décision, on prend une décision en groupe. Et c'est que si toi et moi, Luc, on fait partie de ce groupe-là, et que toi tu proposes A, je propose B. Et que finalement, le groupe décide que c'est A, mais moi qui proposais B au départ, je vais défendre la décision A, bec et ongle, comme si c'était la mienne. Un consensus efficace, c'est ça. J'en sais quelque chose. J'ai enseigné un peu la communication dans le passé. Il faut que le groupe soit assez fort pour, oui, et avoir des échanges en privé. Mais lorsqu'on arrive en public, on a un front uni et on est d'accord. Puis tu le sais, en politique, c'est la même chose.
Bien sûr.
Tu peux pas dire, ah, on a des divergences d'opinion, mais je vais défendre, dans le fond, la décision du groupe sans vraiment être convaincu.
Moi, je peux te dire que c'est exactement ce qui ressort de l'extérieur. Là. Donc, une dissension, une direction tyrannique, pas de coups des franges pour des spécialistes et des experts. Puis moi, personnellement, qui avait vraiment de la sympathie pour l'équipe, de voir qu'il a essayé de flouer les joueurs québécois, ça me donne pas du tout envie.
Écoute,
de continuer les suivre.
Je sais pas si j'irais aussi loin que toi en parlant de décision ou de gestion tyrannique, mais ce que je peux te dire, c'est que moi, ce que je vois de l'extérieur, c'est qu'il y a beaucoup de gens autour de la table. Il y a un conseil d'administration, il y a un groupe qui prend les décisions, et s'il n'y a pas de direction claire ou un boss clair qui peut répondre aux questions et être imputable, je trouve ça dommage et je trouve ça surtout injuste de demander à un dirigeant qui demeure un employé de répondre des décisions du groupe si lui était pas d'accord. Puis je pense que c'est la conclusion à laquelle est arrivé Olivier Renard. Si je peux pas prendre les décisions et que je peux pas les défendre, ben je vais quitter tout simplement si vous me laissez pas la place. Puis par rapport aux joueurs québécois, ben on n'a même pas voulu répondre aux questions aujourd'hui. Gabriel Gervais disait ben je veux pas répondre à des questions de négociation privée, on veut pas négocier sur la place publique. On a tous compris ce qui se passe présentement. Puis c'est juste dommage de voir ça et de voir que ben il y a dissension à l'intérieur de l'équipe puis que ça affecte la progression de cette équipe-là.
Mika, tu disais que le sport féminin, le basketball féminin, ça allait